Alors, on va reprendre. Voyez, pour l'instant, on n'est pas vraiment rentré dans la passion, puisqu'on a fait que regarder l'évangile, mais on voit que la passion n'arrive pas comme un cheveu sur la soupe. C'est pas la mauvaise surprise. Saint Marc nous a préparé à affronter, en fait, ce moment-là. Souvent, on s'est posé la question de savoir, c'est souvent une hypothèse que vous voyez dans des commentaires ou des choses comme ça, que peut-être, à l'origine, avant même que les évangiles soient constitués, soient écrits, eh bien, le récit de la Passion existait comme une sorte de récit autonome qui pouvait convenir à une liturgie ou quelque chose comme ça. En fait, il semblerait plutôt... Parce que quand on voit comment les récits sont constitués, sont organisés, il semble plutôt qu'il y ait le désir en fait de fixer le souvenir des événements pour affronter quand même le scandale que représente la Passion. Parce que le Messie, ou celui qu'on acclame comme tel, le roi, celui qui est acclamé comme roi au moment des rameaux, voilà que il s'affronte, il est confronté au paradoxe de la croix. La question de la passion, c'est pourquoi la violence, la mort, atteint-elle celui qui est l'innocent, celui qui est le juste? Il n'est pas coupable, hein, et donc c'est aussi un élément de tension supplémentaire. Hein. Et en fait, on voit que dans l'Évangile, dans la passion, la violence va s'exercer sans en rien enlever de l'innocence de Jésus. Parce que normalement, dans une société normalement constituée, quand il y a une violence qui s'exerce contre quelqu'un, eh bien, c'est qu'il le mérite d'une certaine manière. Voilà. Or là, ce n'était pas le cas. C'était déjà le cas au chapitre 6, lors de la mort ou de la passion de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est considéré par Hérode comme un homme juste et saint. Chapitre 6, verset 20. Hérode craignait Jean, le sachant homme juste et saint, il le protégeait. Mais grâce à la manipulation d'Hérodiade, qui fait tout en coulisses, hein, vous vous souvenez, le juste, le saint, est mis à mort. En plus, une mort particulièrement affreuse, puisqu'on lui coupe la tête, et qu'ensuite la tête est remise à cette jeune fille, hein, qui doit avoir une douzaine, une quinzaine d'années à tout casser. Vous imaginez cette jeune fille qui tient la tête de Jean-Baptiste sur un plat, c'est pas très ragoûtant. Hein. Mais en même temps, il y a dans la passion de Jean-Baptiste, il y a des tas d'allusions à l'Ancien Testament, au livre d'Esther, hein, où Hérode promet jusqu'à la moitié de son royaume à Salomé. C'est la promesse que fait Assuérus quand il voit arriver Esther. Le problème, c'est que Esther, elle vient pas demander la tête du prophète, mais elle vient demander le salut de son peuple. Cette jeune femme qui a la tête de Jean-Baptiste, c'est aussi Judith. Mais Judith a sauvé son peuple en coupant la tête du général Holoferne, le général païen. Or, là, on coupe la tête du prophète. Donc, vous voyez, ce sont des situations de l'Ancien Testament qui sont perverties, hein, dans cette passion de Jean-Baptiste. Voilà. Dans la passion, là, je vous ai un petit peu organisé le récit. On voit qu'il y a deux parties. La première partie, donc le chapitre 14, verset 1 à 50. Puis la deuxième partie, chapitre 14, verset 53 jusqu'au verset 15-41, qui est la crucifixion, la mort sur la croix. La première partie, c'est autour du dernier repas de Jésus avec ses disciples. Et c'est intéressant parce que Jésus est avec ses disciples pendant toute cette partie-là. En revanche, dans la deuxième partie, autour du procès de Jésus et de la crucifixion, et notamment plus particulièrement du procès de Jésus, les disciples ne sont plus là. Jésus est seul. Et même, je dirais, à partir du moment où les disciples ont fui, Jésus ne sera jamais plus avec ses disciples. Puisque dans le récit de la résurrection, les disciples n'apparaissent pas et Jésus n'apparaît pas. Si on prend la finale brève, originale de Jésus. Et dès le début du chapitre 14, on entre de plein pied dans la passion avec la mention du complot. Les grands prêtres et les scribes, c'est toujours eux, hein, les grands prêtres et les scribes cherchaient comment le saisir par ruse pour le tuer. Tout à l'heure, on voulait le perdre, ça pouvait laisser encore une chance à Jésus de survivre et d'aller, je ne sais pas, en prison ou aux travaux forcés. Non, là, c'est le tuer, hein, il n'y a pas de doute. Il y a un contexte particulier, la fête de la Pâque. Et c'est un contexte qui rend plus difficile la réalisation du complot par les prêtres et les scribes. Pas pendant la fête, qu'il n'y ait pas un tumulte du peuple. On craint la foule. Et par ironie, la fête de Pâques sera justement le contexte de la mort de Jésus. Et c'est justement la foule qui va demander la mort de Jésus. Crucifie-le. Donc vous voyez, Marc prépare son affaire en disant « ça ne va pas se passer, mais c'est bien comme ça que ça va se passer ». Donc il y a là aussi un effet de... Il annonce quelque chose, il prépare... C'est un très bon scénariste. Il prépare son affaire, mais il va nous prendre à contre-pied. Et justement, si on connaît l'histoire, on sait que Jésus va être mis à mort. Mais on se dit, mais comment cela va-t-il se passer? Et c'est ce qui arrive au chapitre 10, au verset 10, pardon. Judas, l'un des 12, s'en va vers les grands prêtres pour le leur livrer. En l'entendant, ils se réjouissent, ils promettent de lui donner de l'argent, et ils cherchaient comment, à l'occasion, le livrer. Voilà. Ils cherchent une occasion favorable, eukairos. Si vous cherchez eukairos dans l'évangile selon saint Marc, vous trouvez le chapitre 6, la passion de Jean-Baptiste. Elle cherchait un moment favorable pour obtenir sa mort. Donc vous voyez toujours le parallélisme entre les deux morts. Et en fait, Judas est celui qui permet au grand prêtre de surmonter l'obstacle de la foule. Puisqu'on va pouvoir trouver un moment favorable pour s'emparer de Jésus hors de la vue de la foule. Cette intervention de Judas, elle n'est pas expliquée. Elle pouvait être attendue, puisque dès le chapitre 3, verset 19, on savait que Judas était le traître, le livreur, littéralement. Mais elle n'est pas motivée. On ne sait pas pourquoi Judas le fait. Alors, il y a des tas d'hypothèses qui ont été élaborées au cours de l'histoire, etc. On peut regarder ces hypothèses, mais je crois que si l'évangéliste se tait sur les motivations de Judas, c'est qu'il a une raison. Ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est le don de la vie de Jésus. Les motivations de Judas ne sont pas importantes. Est-ce que c'était des motivations politiques? Est-ce que c'était des motivations religieuses? Est-ce que c'était des motivations financières? On ne sait pas. Ce n'est pas important. Et justement, le fait que Judas n'ait pas de motif renforce, je dirais, l'innocence de Jésus et le scandale de son arrestation. Entre les deux, donc voilà l'intervention de Judas qui a été comme une péripétie qui permet à l'action d'avancer. Et entre les deux, en fait, il va y avoir une scène importante, c'est l'onction à Béthanie. L'onction à Béthanie autour de cette femme qui oint le corps de Jésus, qui oint la tête de Jésus avec un parfum précieux. Alors à la fois c'est un écho de la pauvre femme, de la pauvre veuve du chapitre 12, qui donne toute sa vie dans le tronc pour les pauvres, et cette femme qui donne 300 deniers. 300 deniers, c'est, pour parler en français, le salaire annuel d'un ouvrier. Un denier, c'est le salaire quotidien. Et une fois que vous avez les Shabbats et les jours de fête, ça fait à peu près 300 deniers par an. Voilà. Donc vous imaginez un SMIC annuel, ça fait cher la bouteille de Chanel numéro 5. Voilà. Mais elle perd ce parfum pour Jésus. Et Jésus lui-même interprète ce geste comme la préfiguration de son ensevelissement, qui va se trouver, lui, à la fin du récit de la Passion. C'est pour ça qu'il y a, vous voyez, c'est bien balancé entre mon ensevelissement, auquel on va assister à la fin, à la fin du chapitre 15, et un ensevelissement qui ne sera pas fait complètement, puisqu'il manquera justement les parfums pour l'onction. Alors on va se dire, ça a déjà été fait au début du chapitre 14, et c'est justement ça aussi qui va expliquer le geste des femmes le dimanche matin. Elles achètent des aromates pour les porter et pour oindre le corps de Jésus. Donc là encore, toujours l'action qui avance. Le dernier repas le dernier repas de Jésus, lui, il est construit dans le tableau que je vous ai mis. Vous voyez dans la colonne de droite, j'ai mis des petits sigles bêta et alpha. C'est des signes kabbalistiques. C'est pour dire, en fait, le bêta, c'est quand on fait intervenir les opposants à Jésus. Et au contraire, alpha, c'est quand on est plutôt avec les amis de Jésus, les disciples, le cercle d'amis. Et en fait, la première partie où Jésus est avec ses disciples, eh bien, il y a au début les opposants, mais avec au milieu Jésus et ses amis. Puis un long moment de Jésus avec ses amis, le repas, avec quand même l'annonce de la trahison, et puis à la fin, l'arrivée des opposants qui viennent s'emparer de Jésus. Et dans la deuxième partie, eh bien, c'est un peu l'inverse. On a Jésus qui est face à ses opposants, dans le procès devant le Sanhédrin, dans le procès devant Pilate avec la foule, et dans la crucifixion. Mais au début, dans le procès devant le grand prêtre, eh bien, il y a Pierre, qui est avant et après, donc un ami de Jésus, mais qui renie, donc avec toute l'ambiguïté du reniement. Et vous voyez, Marc fait alterner les moments où les moments où on présente les opposants à Jésus et les moments où on présente les disciples, les proches de Jésus. Voilà. Et c'est parfaitement bien construit avec au milieu le repas eucharistique. On connaît les paroles de Jésus le soir du Jeudi Saint, très bien, mais de part et d'autre, il y a l'annonce de la trahison. Parce que à la limite, un repas de fête, c'est vraisemblablement dans la manière dont les événements sont présentés par l'Évangile selon saint Marc, c'est le repas pascal, celui que les Juifs vivront ce soir, le Seder, c'est-à-dire un repas en ordre. Seder, ça veut dire l'ordre. En hébreu moderne, quand on vous demande comment ça va, pour dire ça va bien, vous dites beseder, en ordre. Voilà. Mais c'est aussi l'ordre liturgique, le rituel. Donc ce repas qui est chargé de rappeler la sortie d'Égypte du peuple hébreu. C'est un repas liturgique, vraiment, avec toute une série d'étapes, de prières, on ne mange pas n'importe quoi. Hein, voilà. Et notamment, on mange l'agneau pascal. C'est surprenant d'ailleurs que Jésus utilise le pain et le vin dans ce repas, enfin, ou plutôt que dans le récit qu'on en fait, on valorise l'usage du pain et du vin, alors que les plats par excellence de ce repas sont l'agneau, à l'époque, et les herbes amères. Dans la liturgie juive aujourd'hui, comme il n'y a plus le temple de Jérusalem, on ne mange plus d'agneau, hein, mais il y a souvent une côte d'agneau bien rognée qui est là pour rappeler qu'il y a ce rituel, mais qu'on ne peut plus accomplir puisqu'il n'y a plus de temple. Sauf chez les juifs de Rome, la liturgie romaine du judaïsme, ils mangent quand même de l'agneau. Bon, c'est un petit détail. Mais au cœur de ce repas, qui est un repas de libération, eh bien, Jésus annonce la trahison. Et il annonce même une double trahison. Et c'est très bien fait, puisqu'il commence il y a tout un petit ensemble du verset 17 au verset 31, avec un double jeu à la fois de parallélisme et puis d'opposition. Ils se mettent à table. Tandis qu'il mange, Jésus dit « Amen, je vous dis, un de vous me livrera, lui qui mange avec moi. » Donc nous, nous savons qu'il s'agit de Judas. Mais donc voyez, il y a une, alors que les disciples ignorent. Donc c'est toujours dans la manière de raconter un récit, un élément de tension, parce que nous, nous savons, les personnages ne savent pas. Voilà. Il commence à s'attrister et à lui dire un à un, pas moi. Il leur dit, un des 12, celui qui plonge avec moi dans le même plat, celui qui plonge la bouchée avec moi dans le même plat. Plonger, c'est bapto. Immerger, c'est baptizo. Donc il y a peut-être une allusion baptismale, je ne sais pas. C'est que le Fils de l'homme s'en va, comme il a été écrit de lui. Mais malheureux cet homme-là, par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux pour lui s'il n'était pas né cet homme-là. Donc l'annonce de la trahison. Après le repas, après les paroles rituelles de Jésus, sur l'institution de l'Eucharistie, le pain et le vin, après avoir chanté les hymnes, ils sortent vers le mont des Oliviers. Jésus leur dit, tous vous chuterez. Comme il est écrit, je frapperai le berger et les brebis se disperseront. Mais après m'être réveillé, je vous précéderai dans la Galilée. Pierre lui dit, même si tous chutaient, sûrement pas moi. Jésus lui dit, amen, je te le dis, toi aujourd'hui, cette nuit même, avant que deux fois un coq chante, trois fois tu me renieras. Mais de plus belle, il disait, même si je devais mourir avec toi, non, je ne te renierai pas. Tous aussi disaient de même. Vous avez remarqué que dans les deux passages, avant et après, on a cette parole de Jésus, amen, je dis. Amen, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Amen, je te dis, toi aujourd'hui, tu me renieras. Donc annonce que l'un va trahir, et puis il y a presque une mise en cause directe de Jésus à Pierre, tu me renieras. Avec toujours cette question, est-ce que c'est moi qui vais livrer ? Il y a toujours la question, est-ce que ça va être moi ? Et à lui dire un à un par un, pas moi, et Pierre qui dit pas moi. Au début, c'est une question, après c'est une affirmation, mais une affirmation qui va être démentie par Jésus. Tu vas me renier. Et puis, la mention de l'Écriture. Le Fils de l'homme s'en va, comme il a été écrit de lui. Comme il est écrit, je frapperai le berger et les brebis se disperseront. Donc, vous voyez, on a amen, je te dis, pas moi, question, comme il est écrit, et ensuite, comme il est écrit, pas moi, affirmation, amen, je te dis, tu vas me renier. Donc, vous voyez, un jeu concentrique d'opposition. Et une opposition aussi parce que, dans la première partie, on insiste sur l'unicité, un de vous. C'est l'adjectif numéral « heis », un de vous me livrera. Et qu'on va répéter un à un par un, eis, eis kata eis. Et puis ensuite, un des 12. On insiste, c'est pas un parmi les disciples, parmi un des 12. Donc on restera encore le nombre de ceux qui sont susceptibles de trahir. En revanche, dans la deuxième partie, ce n'est plus un, c'est tous. Tous vous chuterez. Pierre, même si tous chutaient, pas moi. Et ensuite, Jésus affirme que Pierre va renier, et tous disaient de même. Donc évidemment, il y a une insistance sur Pierre dans l'évangile selon saint Marc, mais en fait, tous les disciples sont à la même enseigne. Tous les disciples sont dans cette même situation de renier, de trahir, de chuter. Mais, l'évangile selon saint Marc insiste sur la personne de Pierre. Il est parmi les premiers à être appelé. Il est celui qui cherche Jésus, là, juste après la guérison de la belle-mère de Pierre. Il est le premier nommé parmi les apôtres. C'est lui qui prend la parole pour dire « tu es le Christ ». C'est lui qui dit, nous avons tout laissé pour te perdre, pour te suivre, pardon, et ainsi de suite. Et dans le récit de la résurrection, on va mentionner, dites aux disciples et à Pierre. Alors évidemment, on ne dit pas dire à Pierre et aux disciples, mais aux disciples et à Pierre. Parce que ensuite, c'est quand même lui qu'on va suivre un peu particulièrement et qui se trouve être à renier. Une fois que Judas a accompli sa basse besogne de livrer Jésus, il disparaît. Son sort ne nous intéresse pas, enfin n'intéresse pas saint Marc. Saint Matthieu va nous dire qu'il s'est pendu. Saint Luc, dans les Actes, va nous dire qu'il a chuté et que son ventre s'est ouvert. Mais chez Marc, ce n'est pas intéressant. Le fait que Judas soit un des douze est un élément dramatique qui vient aggraver encore la situation. Mais le sort de Judas n'est pas intéressant. Voilà. Donc, le dernier repas de Jésus est marqué, alors que c'est un repas de libération, alors que c'est un repas de fête, il est quand même marqué par ce paradoxe de la trahison d'un des disciples et de la chute des autres. Avec en plus, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'en ce jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. Donc, une annonce de Jésus qui fait référence quand même à quelque chose d'après. L'institution de l'Eucharistie, elle tient en quatre versets, c'est assez rapide en fait. Mais c'est le cœur de cette partie-là où Jésus est avec ses disciples, où Jésus est encore avec ses disciples. Ensuite, il y a la veillée au jardin de Gethsémani, veillée qui est quand même un peu particulière, puisque effectivement, Jésus demande à ses disciples de veiller et il n'y arrive pas. Il y a tout le jeu de l'exhortation à la vigilance et de l'incapacité des disciples à le faire et du fait qu'ils dorment, de la prière de Jésus. Alors que là, quand même, même par rapport au repas, on sent la tension qui monte. Mon âme est saturée de tristesse à mort. Moi, je sais pas, quand j'ai un ami qui me dit ça, je lui dis, est-ce que ça va? Est-ce que tu veux qu'on reste avec toi? Enfin, spontanément. Bon. Évidemment, c'est Jésus dont il s'agit. La prière de Jésus, que cette coupe s'éloigne de moi. On avait la coupe, hein, vous vous souvenez dans la rencontre, enfin, le dialogue de Jésus avec Jacques et Jean. Hein. Est-ce que vous pouvez boire la coupe que moi je bois? Ah ben oui, on le peut. Vous la boirez, comme une annonce de leur martyr à eux, mais voilà, Jésus est bien conscient que cette coupe, il doit la boire. Et au moment où Judas arrive, voilà, arrive Judas, un des douze. On en rajoute, hein, parce qu'on sait bien que Judas était un des douze. Depuis le chapitre 3, c'est le cas. Mais là aussi, la mention du fait qu'il est l'un des douze, ça rappelle évidemment l'annonce de Jésus, un des douze va me livrer, mais ça appuie aussi sur le fait que celui qui n'aurait pas dû trahir est celui qui va trahir. Avec lui, une foule avec épée et gourdin, d'auprès des grands prêtres, des scribes et des anciens. Donc la foule, une cohorte, voilà, ce ne sont pas les grands prêtres, les scribes et les anciens, mais ce sont eux qui ont commandité cette foule. Mais, au verset 53, ils emmènent Jésus chez le grand prêtre, ils se réunissent tous, les grands prêtres, les anciens et les scribes. Donc c'est la même triade qui a envoyé la foule et qui va être au procès. Donc vous voyez, cette mention-là fait le lien entre les deux parties. Entre la partie de la passion avec les disciples, où finalement Jésus se détache petit à petit de ses disciples, et la passion de Jésus devant ses opposants avec les procès et la crucifixion. Ils jettent les mains sur lui, ils le saisissent. Ils le laissent et fuient tous. Bon, on devine que ils le laissent, ce sont les disciples. tous laissent Jésus et Jésus est aux mains de la foule et il est emmené à la foule. Et là, il y a un drôle d'épisode qui fait toujours rire les enfants quand on en parle, parce que voilà, alors qu'en fait, que Marc est le seul à rapporter, alors qu'en fait, il est vraiment important. C'est dit en deux versets, c'est une péripétie un peu rocambolesque, parfois on a dit triviale ou ridicule chez certains. Et alors, au XIXe siècle, on voulait absolument y voir, comme Marc était le seul à mentionner cet épisode, et bien certains disaient, c'est certainement Marc qui raconte un souvenir qu'il a eu. Peut-être que vous avez ça dans vos notes de Bible. Hein. On a un jeune. Là, Sœur Jeanne d'Arc a traduit « jeune », « né à Niscos ». Un jeune l'accompagne. En fait, un jeune le suit. Suit qui ? Jésus. Vêtu d'un drap sur son corps nu. Littéralement, enveloppé d'un linceul sur sa nudité. Ils le saisissent. C'est le verbe saisir, kratéo. Vous savez, la démocratie, c'est quand c'est le peuple qui tient le pouvoir, qui tient l'autorité. Et bien là, ils le saisissent. Et ce verbe saisir, c'est celui qu'on avait appliqué à Jésus au moment où Judas l'a embrassé. Ils jettent les mains sur lui et le saisissent. Et kratesan auton. Donc en fait, ce jeune homme, il suit Jésus, donc idéalement comme un disciple, surtout qu'on voit que cette question de suivre Jésus, c'est un des leitmotifs de l'Évangile. Depuis l'appel des premiers disciples, depuis la première annonce de la Passion, toute la section qu'on appelle la section du chemin, c'est-à-dire de la profession de foi de Pierre jusqu'à Bartimée, la question c'est comment suivre Jésus ? Qui arrive à suivre Jésus ? Donc, Jésus, après avoir fait la première annonce de la Passion, il dit à Pierre « passe derrière moi », c'est-à-dire en fait « mets-toi à ta place de disciple ». Et ensuite, « celui qui veut suivre derrière moi, qu'il se renie, qu'il prenne sa croix et me suive ». Et ensuite, « l'homme riche, suis-moi », ça marche pas. Saint-Pierre qui dit « tu as vu, nous avons tout quitté pour te suivre ». C'est vrai. Et vous allez recevoir au centuple ce que vous avez quitté avec des persécutions. Et ensuite, celui qui arrive à suivre Jésus, en définitive, c'est Bartimée. Bartimée, pourquoi est-ce qu'il arrive à suivre Jésus ? Parce qu'il est pauvre et qu'il a demandé la miséricorde. Et il suit Jésus à Jérusalem, au lieu où Jésus va être crucifié. Donc en fait, suivre Jésus, c'est vivre la passion avec lui. C'est passer dans la passion et la résurrection avec Jésus. Et en fait, ce jeune, ce né à Niscos, il est intéressant parce que justement, il suit Jésus, et il suit Jésus plus loin que les disciples, puisqu'eux ont déjà fui. Il suit Jésus un petit peu plus loin que les disciples. On se saisit de lui comme on s'est saisi de Jésus, mais lui quitte le drap, il quitte son linceul, et il s'enfuit nu. Il fuit, comme les disciples. Ce personnage... aussi étrange soit-il, voyez qu'il est à la fois comme un disciple et comme Jésus. Il est entre deux. Et ça, c'est intéressant. Parce que, en plus, ce né à Niscos, on va le retrouver. On va le retrouver au matin de Pâques. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça vient faire un né à Niscos au matin de Pâques ? Souvent on se dit, c'est souvent l'exercice que je fais avec les gens, quand on lit la résurrection chez saint Marc. Voilà, les saintes femmes arrivent au tombeau, et qu'est-ce qu'elles voient ? Et les gens disent, un ange. Or, elles ne voient pas un ange. Alors, dans les autres évangiles, c'est un ange, donc il y a peut-être quelque chose de l'ordre angélique, mais à proprement parler, littéralement, elle voit un jeune, un né à Niscos. Alors je ne dis pas que c'est le même que celui qui s'est enfui tout nu Voilà. Mais c'est le même mot. Et si vous faites une recherche dans l'évangile selon saint Marc, vous ne trouverez ce mot néaniskos que en 14:51 et en 16:5. Donc il y a un lien, en tout cas sémantique, entre les deux. Ce néaniskos qui s'enfuit tout nu. Alors évidemment, ça nous fait ricaner, hein, on l'imagine. Mais si on se souvient que l'évangile est conçu pour un contexte pascal, un contexte baptismal. À notre époque, c'est vrai qu'on baptise surtout les petits-enfants, voilà. Mais à une époque où on baptisait des adultes et où on baptisait par immersion, quand vous étiez baptisé, eh bien, vous étiez tout nu. Bon, on n'avait pas le même rapport à la nudité que ce qu'on peut avoir nous. Et une fois que vous étiez baptisé, on vous mettait une robe blanche et vous passiez une semaine dans cette robe blanche, la semaine de Pâques. Et donc, en fait, on voit que ce jeune homme qui s'enfuit tout nu et qui était vêtu de quoi ? D'un linceul. C'est-à-dire de quelque chose qui rappelle la mort. Il abandonne sa mort et ensuite, il annonce la résurrection. Et il est vêtu de blanc comme un nouveau baptisé. Et c'est intéressant parce que ça montre que du coup, on n'a pas besoin de voir Jésus ressuscité puisque Jésus ressuscité est annoncé par le baptisé. Ou par celui qui ressemble à un baptisé. Voilà. Par celui qui, dans son attitude, dans sa description, ressemble à ceux qui vont être baptisés. Vous imaginez l'effet de réel que peut avoir la lecture de l'évangile pour ceux qui se préparent à se dépouiller. Bon, même si on n'avait pas les mêmes pudeurs que ce qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est quand même pas n'importe quoi de se mettre à nu, en sachant ensuite qu'il allait être vêtu de blanc. Voilà. Donc, Et en fait, le jeune homme, ce jeune homme au chapitre 14 et au chapitre 16, c'est pas nécessairement le même personnage, hein, je pense pas, mais il est décrit de manière identique ou reliée, justement pour nous faire comprendre que ce qui est en train de se jouer dans le mystère du baptême, c'est notre participation à la mort et à la résurrection de Jésus. C'est ce que saint Paul dit à sa manière dans l'épître aux Romains, au chapitre 6, et qui est proprement l'épître de la vigile pascale. Chapitre 3, chapitre 6, verset 3. « Ignorez-vous que, baptisés dans le Christ Jésus, c'est dans sa mort que tous nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême dans la mort. » Ensevelis dans ce drap mortuaire, dans ce linceul. « Afin que, comme le Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, nous vivions nous aussi dans une vie nouvelle. » Voilà. Hein, donc, on passe de la honte de la nudité au vêtement de gloire du baptisé. Celui qui vient après les disciples et qui leur ressemble par sa volonté de suivre Jésus va évoquer à la fois les disciples du Christ et les disciples du Christ dans la communauté chrétienne. Hein, voilà. Et donc, voyez ce que j'ai appelé récit de transition, hein, parce qu'à la limite, si ces deux versets n'existaient pas, l'histoire aurait son cours. Et d'ailleurs, Matthieu et Luc ou Jean n'ont pas retenu cet épisode, hein, parce que pour eux, il n'était pas essentiel à la construction de leur récit. En revanche, ce jeune homme, il nous dit, ben voilà, celui qui va subir la mort, il va la subir pour nous. Nous échappons à la mort et à la condamnation avec ce jeune homme qui s'enfuit tout nu, parce que c'est Jésus qui subit la mort et la condamnation à notre place. Et ensuite, donc, on arrive au procès. Hein, donc, je vous ai fait un petit schéma avec, il y a trois épisodes, trois moments. Hein. Le premier moment, c'est le procès devant les autorités juives. Le deuxième moment, qui est un peu le sommet de la tension, c'est le procès devant Pilate, avec la question, est-ce que Jésus va réussir à échapper à la mort? Parce que c'est ce qui, c'est, il en faut pas beaucoup pour que Jésus échappe à la mort. Et finalement, une fois que Pilate a abandonné le combat, on va dire, eh bien, la mort de Jésus. Mais la mort de Jésus qui est comme le, il y a plus vraiment de tension quand Jésus meurt, quand Jésus est mis sur la, est envoyé à la crucifixion. On le suit dans ce qui lui arrive, mais c'est bon, c'est plié. Il y a plus rien à faire. Donc toute la tension retombe. C'est la catastrophe. Et c'est vrai que ça se fait comme ça. Le procès de Jésus devant les autorités juives, c'est une dizaine de versets encadrés par le reniement de Pierre. Et là, c'est intéressant parce que le reniement de Pierre, je ne sais plus où est-ce que j'ai mis mes notes, voilà. Le reniement de Pierre, eh bien, là aussi, il est comme un intermède à la fois tragique, hein, puisque c'est l'ami qui renie, et puis il y a un peu d'humour, hein, d'humour un peu noir quand même, parce que Pierre nie, hein, et on le poursuit en disant tu es Galiléen, tu es un disciple de cet homme, et lui il renie, et puis il se souvient de la parole de Jésus et il se met à pleurer, hein. Donc finalement ce rire jaune devient quelque chose de triste. Et finalement, pour toute la question de suivre Jésus, eh bien, c'est là que Pierre, qui avait promis qu'il suivrait jusqu'au bout, est confronté à ses propres limites. C'est là que l'auditoire aussi est confronté à ses propres limites. Très souvent, il nous arrive de ne pas suivre Jésus jusqu'au bout. Donc, évidemment, ça s'ouvre à la miséricorde, mais la miséricorde, c'est plus le don du baptême et le pardon des péchés que la simple restauration. Le procès juif de Jésus tourne autour des faux témoignages, hein, des témoignages, et avec même la répétition. Alors parfois dans les traductions on ne s'en rend pas compte. Leur témoignage, leur martyr, littéralement, n'était pas égaux. Il y a une répétition du mot marturia, le témoignage, et iso, l'adjectif qui veut dire égal. Vous savez, une bouteille isotherme, ça garde à la température égale. Voilà. Donc iso égal. Et en fait, à la fin de cette petite mention, où est-ce que je suis, voilà, au verset 59, même en cela, leur martyr n'était pas égal, ne concordait pas. Donc, un élément qui pourrait permettre d'innocenter Jésus, c'est que les témoignages contre lui ne concordent pas. Or, dans la loi juive, c'est normal d'avoir quelqu'un il faut plusieurs témoignages concordants pour pouvoir condamner quelqu'un. Voilà. On l'a vu lundi dernier avec l'histoire de la chaste Suzanne, hein, où on arrive à séparer le témoignage des deux vieillards avec l'histoire de l'arbre sous lequel l'événement se serait passé, et à faire en sorte que leur témoignage ne concorde plus, et donc de pouvoir innocenter la chaste Suzanne. Et silence de Jésus devant ces faux témoignages. Le grand prêtre l'interroge. Toi, tu es le Messie, le Fils du Béni, le Christ, le Fils de Dieu. Hein, donc, l'identité de Jésus est questionnée. Et Jésus, je suis. Toute la première partie du récit, de l'évangile, il n'a pas, parfois même il a commandé le secret, hein, ne dites pas. Voilà, mais là, il affirme, je suis le Christ, le Fils du Béni. Le béni, c'est une paraphrase pour ne pas prononcer le nom de Dieu. Je suis, et vous verrez le Fils de l'homme. Voilà. Le grand prêtre lacère ses tuniques et dit. Il déchire ses vêtements. le fait de déchirer ses vêtements dans le monde juif, c'est un geste de deuil devant le blasphème que Jésus est supposé avoir proféré. Le problème, c'est que le grand prêtre, pour être grand prêtre, pour exécuter ses fonctions de grand prêtre, il fallait qu'il ait des vêtements en parfait état. Et donc, dans le Talmud, quand on raconte les rituels du temple, eh bien, il y a tout un examen minutieux des vêtements que le grand prêtre va porter pour les cérémonies rituelles, pour faire en sorte qu'on vérifie qu'il n'y a pas de défaut. Et voilà que le grand prêtre, qu'est-ce qu'il fait? Il déchire ses vêtements. Alors évidemment, il est vraisemblable qu'au cœur de la nuit, quand on s'est rassemblé un peu rapidement autour de Jésus pour le juger, il n'était pas en tenue de cérémonie. Hein, il n'avait pas mis l'éphod, la tunique. Il était dans sa tenue civile, on pourrait dire. Hein. Mais évidemment, c'est pas Saint-Marc nous dit, ben voilà, il a déchiré ses vêtements. En fait, c'est comme s'il renonçait à son sacerdoce. C'est un peu d'autant que un peu plus loin dans l'évangile, qu'est-ce qui va se déchirer? C'est pas les vêtements, c'est le rideau du temple. De la même manière que au début de l'évangile, les cieux se sont déchirés pour que la voix du Père descende et dise celui-ci est mon fils bien-aimé. Voilà. Et donc le procès juif se termine par une sorte de flagrant délit de Jésus. Par le blasphème, ou supposait-elle, que Jésus prononce, et donc il est passible de mort. Et il est passible de mort, mais on va en profiter pour outrager Jésus, hein, avec des soufflets, on le masque, on le gifle, et on lui demande « fais le prophète ». Et Jésus se tait. Drôle de prophète que celui qui ne parle pas, puisqu'en fait, le prophète, c'est littéralement celui qui parle au nom de Dieu. Ensuite, le procès avec Pilate est un moment, là aussi, de tension maximale, puisque au début du chapitre 15, Jésus ne répond rien à l'accusation de roi des Juifs. Hein, Jésus, Messie, fils du béni, c'est plus du tout le problème. La question, c'est roi des Juifs. Et c'est toujours les grands prêtres, les anciens et les scribes, hein, qui livrent Jésus à Pilate. Donc on a des livraisons successives. Judas livre Jésus au grand prêtre, qui le livre à Pilate, et ainsi de suite. Et donc en fait on a l'impression que Pilate sait pas quoi faire de Jésus. Hein. Jésus ne répond rien à l'accusation « tu es le roi des Juifs », donc d'un certain côté, il est prêt à le libérer. Un peu comme on dit chez saint Jean, « je ne trouve en lui aucun motif de condamnation ». Le moment décisif, ce qui va renverser le procès, parce que là, on pourrait très bien se dire ben, « Pilate, il est intelligent, il va libérer Jésus ». Eh bien non. C'est le renversement par la possibilité de libérer un détenu, la possibilité coutumière de libérer un détenu. Alors les historiens doutent un peu de cette coutume. Voilà. Il y avait le nommé Barabbas. Alors c'est surprenant parce qu'en fait Barabbas veut dire littéralement « fils du père ». Saint Matthieu le signale assez franchement, hein, à tel point que même il y a une variante de Saint Matthieu où Barabbas s'appelle Jésus Barabbas, Jésus fils du père. Donc c'est Jésus fils du père qui va remplacer Jésus fils de Dieu qui va remplacer Jésus fils du père. Là, Marc ne s'appuie pas dessus, alors qu'il a l'habitude, Marc, de traduire en grec les mots araméens. Là, il ne le fait pas. Donc peut-être qu'il ne joue pas là-dessus. Mais quand même, Barabbas, fils du père. Alors que toute la filiation de Jésus est quand même un des thèmes de l'évangile. Le moment décisif, où la foule va réclamer la libération de Barabbas, dont on nous dit quand même que c'est un brigand, un séditieux. Où est-ce qu'il est présenté? Voilà, il l'avait enchaîné avec les révoltés qui, pendant la révolte, avaient fait un meurtre. C'est pas un enfant de cœur, le bonhomme. Voilà. Et condamnation de Jésus. condamnation de l'innocent. Vous voyez la laideur du personnage de Barabbas, contraste avec l'innocence et le silence de Jésus. Et c'est la foule, celle dont on doutait qu'elle puisse permettre aux grands prêtres d'exécuter leur dessein, qui va obtenir la mort de Jésus. Mets-le en croix, crucifie-le. Crucifie-le. Et là encore, l'épilogue du procès, c'est une scène d'outrage, avec le couronnement d'épines, les crachats dont Jésus avait parlé dans la troisième annonce de la Passion, et voilà. Et ensuite, bien une fois que Jésus a été outragé comme ça, outragé comme roi, ou comme pseudo-roi, ou roi de comédie, eh bien, c'est la crucifixion, avec une série d'épisodes. La partie de la crucifixion n'est pas tellement unifiée, en fait, comme si Marc mettait vraiment là les événements les uns avec les autres, encore que Jésus a trois paroles, non, il n'a pas trois paroles, mais il a la parole de Jésus sur la croix, Eloi, Eloi, lema sabachthani, c'est l'araméen du psaume 22, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Et il y a deux autres allusions au psaume 22 dans le récit de la crucifixion. Donc on sent bien quand même que la manière qu'a Marc de raconter cet épisode, eh bien il y a une unité autour de la réalisation de cette écriture. Voilà. Mais réalisation de l'écriture dont les témoins sont incapables de se rendre compte. Puisque quand ils entendent Jésus qui appelle « mon Dieu », ils croient qu'il appelle le prophète Élie. En revanche, le récit de la crucifixion est entouré par des noms propres. Simon de Cyrène, le père d'Alexandre de Rufus. Il est vraisemblable que Saint Marc écrit à une communauté qui connaît Alexandre et Rufus. Simon aussi lui s'appelle Simon, Shimon, un nom juif. Et ses fils, Alexandre, un nom grec, et Rufus, un nom latin. Donc c'est possible aussi que dans la mention de Simon de Cyrène, on montre aussi que celui qui porte la croix avec Jésus, ou celui, c'est un peu tous les croyants, quelle que soit leur origine ethnique, juive, grecque ou latine. Voilà. Et à la fin du récit, on a encore des noms propres, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, le petit, et de José, et Salomé. Voilà. Donc les femmes qui sont les témoins de la mort de Jésus. D'autant que la mention des femmes, on nous dit qu'elles sont à distance et qu'elles regardent, théoréo. Même elles ne font pas que regarder, elles contemplent. Théoréo, ça veut dire contempler, c'est-à-dire un regard attentif, un regard perçant. Voilà, c'est pas simplement « j'ai vu », c'est « j'ai contemplé ». Et elles sont à distance. Or, au début du procès juif, du procès devant le grand prêtre, qui était à distance ? Saint-Pierre. Voilà. Donc il y a aussi une inclusion entre Saint-Pierre qui est à distance et qui va renier, et les femmes qui sont à distance et qui contemplent. Voilà. En fait, si on fait attention, à partir de l'arrestation de Jésus, à partir de la fuite de l'homme, du jeune homme tout nu, Jésus est seul. Jésus n'est plus avec ses amis. Ils sont toujours à distance. Et tous ceux qui entourent Jésus sont des opposants. Le Sanhédrin, Pilate et la foule, Barabbas à sa manière, et les témoins directs de la crucifixion qui ne comprennent pas ce que Jésus dit, qui se moquent de lui. « Toi qui détruis le sanctuaire et le rebâtis en trois jours, sauve-toi toi-même, descends de la croix. » Voilà. En fait, la fête de Pâques, qui ne pouvait pas être le lieu où Jésus meurt, va être le lieu, le moment opportun, dans tous les sens du terme, à la fois pour le complot de ceux qui veulent la mort de Jésus, mais aussi le moment opportun, parce que la fête de Pâques montre bien que c'est une libération dont il s'agit. Et que donc, ce qui est en train de se réaliser, c'est la libération par la mort de Jésus. Le procès se termine donc par la mort de Jésus, la reconnaissance du centurion, fils de Dieu. Celui-ci était vraiment fils de Dieu en voyant comment Jésus est mort. C'est surprenant que la mort d'un homme révèle son identité de fils de Dieu. Mais nous, quand nous mourons avec le Christ dans le baptême, c'est là que nous est donnée cette identité de fils de Dieu. Alors évidemment, est-ce que le centurion a une foi en Jésus, fils de Dieu, avec tout ce que ça veut dire? Le centurion n'est pas en train de dire le credo, hein, rassurez-vous. Mais dans le récit, dans la manière dont c'est raconté, eh bien, le centurion proclame la foi. D'autant que ce centurion, c'est un Romain. Centurion. Normalement, le centurion, c'est Hécaton Tarkos, le chef de centaine. Mais là, on a choisi centurion, qui est en fait la transcription en grec du mot latin centurion. Parce qu'on s'adresse en fait à un public, vraisemblablement aux Romains, qui parle grec, mais qui son grec est un peu mélangé parfois de latinisme. Il y a un latinisme dans cet endroit-là. Donc, c'est un soldat romain, un païen, qui proclame la foi en Jésus, fils de Dieu. Voilà. Ensuite, donc, les femmes regardent à distance. Et puis, il y a un autre récit de transition, c'est la mise au tombeau. Jésus est mort, il n'y a plus rien à espérer de toute façon. Mais on prépare la suite avec la préparation. C'est ce que les Juifs sont en train de vivre aujourd'hui, la préparation, la parasève. Vient Joseph d'Arimathie, un éminent conseiller. Lui aussi est dans l'attente du royaume de Dieu. Tiens donc, ce royaume de Dieu, on nous l'annonce depuis le verset 15 du chapitre 1. Les temps sont accomplis, le royaume de Dieu s'est approché. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. Donc le royaume s'est approché avec Jésus. Jésus parle des paraboles du royaume. Enfin, c'est un thème là aussi un peu qui parcourt l'évangile. Et là, on a cet homme qui est dans l'attente du royaume. Donc ça nous montre que le royaume n'est pas encore arrivé. Évidemment, il va arriver avec la résurrection. Donc, il ose entrer chez Pilate et demande le corps de Jésus. Pilate s'étonne qu'il soit déjà mort. Il appelle à lui le centurion. Lequel? Celui qui a proclamé Jésus, fils de Dieu. Et l'interroge. Donc, celui qui témoignait que Jésus était fils de Dieu est aussi celui qui témoigne que Jésus est mort. Les deux sont liés. Renseigné par le centurion, il accorde le cadavre à Joseph. Celui-ci achète un linceul. Ça, c'est le même mot que le jeune homme. Il le descend, Jésus, l'enveloppe du linceul et le dépose dans une sépulture taillée dans le roc. Puis il roule une pierre contre la porte du sépulcre. Donc là, en fait, Marc est en train de préparer les problèmes qui vont se poser juste à la page suivante quand il va s'agir de d'oindre le corps de Jésus. Marie la Magdaléenne et Marie, celle de Josette, regarde où il est mis, contemple où il est mis. Donc elles regardaient de loin, elles sont un peu le fil entre, vous voyez, le fil entre la mort de Jésus, sa mise au tombeau, et la constatation du tombeau vide. Donc c'est un récit de transition, mais qui est important parce qu'en fait c'est lui qui permet de voir tout cela. Il y a en plus une jonction entre cet épisode et l'épisode qui suit par le verbe agorazo. Acheter. Joseph a acheté un drap, ce qui est un peu surprenant parce que, comme c'est le vendredi soir, normalement les commerces sont fermés. En revanche, les saintes femmes, chapitre 16, verset 1, elles achètent le dimanche matin, les commerces sont ouverts, c'est normal, des aromates pour oindre Jésus. Donc il y a comme une. Il y a un lien entre la pierre roulée qui va poser un problème aux saintes femmes. Elle croit que ça va poser un problème, et puis merveille, la pierre est roulée, enfin la pierre est enlevée. Elles vont aussi contempler. Hein. Elles voient un jeune homme assis à droite. Elles le contemplent. Et en fait, on est complètement dans l'attente du royaume du royaume. Et ça va arriver effectivement avec la résurrection. Mais ça, c'est ce que nous entendrons pendant le dimanche de Pâques au matin, de grand matin. Voilà. Donc, voyez la passion comme un récit construit, mais où Jésus finalement, nous suivons Jésus dans sa passion. Ce Fils de Dieu, Messie, Roi, donc tous ces titres de gloire, mais qui sont déployés d'une manière mystérieuse dans la souffrance et la mort, et qui sont reconnus dans sa souffrance et dans sa mort pour nous faire entrer avec lui dans la gloire de la résurrection. Voilà, je vous remercie. L'esprit souffle.